Émile Gaborio, Les cotillons célèbres. 8. Marie Touchet. Charles IX fut un prince malheureux. Il hérita, en montant sur le trône, des fautes de ses prédécesseurs, et c'est lui seul, cependant, que l'histoire semble en rendre responsable. Engagé malgré lui dans une voie sans issue, il vit éclater les funestes événements qu'avaient préparés les règnes de François Ier, de Henri II, la minorité de François II et sa minorité à lui, qu'il avait laissée sous la toute-puissance de l'ambitieuse et rusée Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, voilà la vraie coupable. C'est elle qui régna sous le nom de son fils. Faible jouet aux mains de sa mère, Charles IX n'eut que le tort de ne point savoir résister à ses obsessions. Souvent même, et pour les choses les plus importantes, il ne fut point consulté. C'est à son insu que se préparèrent les horribles massacres de la Saint-Barthélemy. Prévenu, il les eut empêchés. Il ne fut pas des moins surpris lorsque sonna le tocsin, non pas à Saint-Germain-l'Auxerrois, comme on l'a dit à tort, mais à la grosse tour du palais de justice. Et s'il fallait des preuves de ce que nous avançons ici, nous dirions que la princesse Marguerite, la femme de Henri de Navarre, cette sœur aînée du roi de France, n'avait point été avertie, de telle sorte qu'elle faillit tomber sous le couteau des assassins. Ils pénétrèrent jusque dans son alcôve, où ils osèrent poursuivre un malheureux huguenot qui dut la vie au courage de la princesse. Il est inutile de réfuter cette tradition ridicule qui nous montre Charles IX tirant sur ses propres sujets du haut du balcon du Louvre. Ceux qui, d'après quelques chroniques mensongères, ont colporté ce conte, ne se sont point souvenus qu'à cette époque, le fameux balcon n'était point construit encore. Charles IX a été un prince calomnié. Il avait plus de bonnes qualités que de mauvaises, et certes, il lui fallait un naturel heureux pour n'avoir point été complètement corrompu par l'éducation que lui donna sa mère. La cour de France était alors plus licencieuse que jamais. Tous les crimes et toutes les débauches y avaient leurs grandes entrées. On y tramait l'assassinat et on y préparait le poison. Comme à pas pour ceux qu'elle voulait attirer dans ses filets, Catherine de Médicis avait ses filles d'honneur, belles et dangereuses sirènes qui mettaient leur faveur et leur beauté au service de la politique de la reine-mère. Nul plus que Charles IX ne porta impatiemment le poids de la couronne. « Que je regrette donc d'être roi !» disait-il souvent. Poète, peintre, musicien, il mettait les arts bien au-dessus du pouvoir. C'est lui qui adressait à Ronsard, son poète, son ami, ses vers charmants. L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner, doit être à plus haut prix que celui de régner. Tous deux également nous portons des couronnes. Mais roi, je la reçois, poète, tu les donnes. Ta lyre, qui ravit par de si doux accords, t'a servi les esprits dont je n'ai que les corps. Elle t'en rend le maître et te sait introduire où le plus fier tyran ne peut avoir d'empire. Charles IX se plaisait au milieu d'un cénacle de poètes, d'érudits et de beaux esprits, dont la savante Marguerite était l'âme et la reine. Aux heures de loisir, il recherchait avec empressement tous les chefs-d'œuvre de l'art de cette époque, parvenus alors à son apogée. Il faisait recueillir les manuscrits précieux, les tentures richement ouvragées, les meubles merveilleusement sculptés, puis les tableaux, les armures, les ouvrages d'orfèvrerie. Il nous est resté de cette époque des collections aujourd'hui sans prix. La grande passion du roi était la chasse. Il ne redoutait ni danger ni fatigue. Il tuait ses chevaux à appuyer les chiens et les favoris s'épuisaient en vains efforts pour le suivre. Au retour, il faisait des armes. Il était fier d'être la meilleure lame de son royaume. Il donnait du corps à plein poumon jusqu'à cracher le sang. Il défiait à la balle tous ces gentilshommes. On avait encore d'autres passe-temps moins dangereux et moins violents. Le bilboquet venait de faire son apparition à la cour. Nul seigneur de Bonaire ne sortait sans le joujou à la mode, et c'était merveille, vraiment, que de voir déployer leur adresse à ce jeu, légèrement niais, des raffinés que le moindre prétexte mettait l'épée à la main. Il y avait encore un nouveau jeu, venu tout récemment de Florence, le jeu de billes que l'on faisait rouler sur un vaste tapis. C'était l'enfance du billard qui devait plus tard charmer la vieillesse de Louis XIV et faire la fortune politique de Monsieur de Chamillard. Tel est pourtant le roi aimable et spirituel que l'on nous montre couché, sanglant sur un lit d'agonie, torturé par d'horribles remords et disant avec terreur à sa nourrice, vieille huguenote ménagée, ajoute-t-on par ses ordres, « Ah, nourrice, que de sang, que de sang !» Les amours de Charles IX et de Marie Touchet forment un contraste remarquable avec les amours de tous les rois dont nous venons de parler. Ici, point de bruit, point de faste, point de scandale. Marie Touchet n'est pas une favorite ambitieuse, c'est une maîtresse dévouée. Charles IX eut ce rare bonheur d'être aimé pour lui-même. Marie Touchet était fille d'un bourgeois d'Orléans, Jean Touchet, lieutenant particulier au présidial d'Orléans selon les uns, apothicaire ou parfumeur selon les autres, dans tous les cas, un des beaux esprits du temps, car plusieurs poètes lui firent des dédicaces. C'est à Blois, au retour d'une chasse, que le roi, qui n'avait encore que 18 ou 19 ans, aperçut cette charmante fille. Il ne put la voir sans l'aimer. La beauté de Marie Touchet était éblouissante et, chose rare à cette époque, son esprit était aussi incomparable que sa beauté. Elle avait, dit un écrivain du temps, le visage plus rond qu'ovale. Ses yeux, trop grands peut-être, avaient une expression de douceur infinie. Son nez était du dessin le plus fin, ses cheveux noirs et merveilleusement abondants, et sa bouche rose et mignonnette s'ouvrait sur des dents plus blanches que neige. Enfin, elle méritait de tout point l'anagramme que son amant fit plus tard de son nom. « Marie Touchet, je charme tout. » Longtemps, la passion du jeune roi pour la belle Marie Touchet fut un secret à la cour. Charles IX redoutait pour sa douce maîtresse la colère de Catherine de Médicis. L'ambitieuse était jalouse de tous ceux qui approchaient son fils. Toujours, elle craignait de voir s'élever quelque influence qui pût contrebalancer la sienne. Il eût été dans son caractère de donner une amie à son fils, quelque belle fille d'honneur dont elle eût été sûre. Elle devait craindre une femme étrangère qui pouvait apprendre au roi qu'après tout, il était le maître. Un profond mystère entoure donc les commencements de ses amours. Charles IX n'avait qu'un seul confident. Lorsque la nuit était venue, que chacun croyait le roi enfermé dans ses appartements, il s'enveloppait d'un grand manteau sombre, rabattait un large feutre sur son visage et s'échappait par quelque porte secrète du château. Seul le plus souvent, sans penser que plus d'un chef huguenot ne se fût fait aucun scrupule de s'emparer de sa personne royale. Les deux amants avaient choisi pour leur rendez-vous un petit logis qui, jadis, avait servi de halte de chasse. Là, presque chaque soir, Charles IX passait de longues heures au pied de la belle Marie Touchet, tandis que son confident faisait le guet dans les environs. Ses premières entrevues furent des plus innocentes. Le roi de France soupirait comme un amoureux transi et n'osait rien demander. Ce prince, qu'on sait plus à nous représenter si terrible et si farouche, était au fond d'une grande timidité. Mais, à défaut d'audace, sa passion plaida bien mieux sa cause. Marie ne sut pas résister longtemps à ce bel adolescent qui était son seigneur et son maître et qui priait quand il aurait pu commander. Elle se donna à Charles librement, sans arrière-pensée et sans condition, non pas au monarque très chrétien, mais au jeune et élégant gentilhomme aux moustaches et aux cheveux dorés, dont le pinceau net et suave de François Clouet nous a laissé de si charmants portraits. Le moment arriva bientôt où leurs discrètes amours se virent menacées de l'implacable ressentiment de la reine-mère. Marie Touchet portait dans son sein un gage de l'amour du roi. Que se passa-t-il alors entre les deux amants? Virent-ils seulement dans le rêve de leur imagination effrayée se dresser menaçante la figure de Catherine de Médicis? Ou la panique dont ils furent saisis fut-elle déterminée par la révélation de leur secret trahi ou vendu? La chronique hésite à se prononcer sur ce point. Mais pour qui connaît les pratiques et les manœuvres astucieuses dont s'armait, envers et contre tous, la politique italienne de la mère du roi, il est plus que probable qu'elle avait été informée de la grossesse de Marie par les espions dont elle formait toujours une escorte invisible à son cher fils. Celui-ci, habitué à trembler devant elle, s'arrêta au parti que prennent, en pareille circonstance, les caractères faibles et dominés. Pour sauver sa maîtresse, il l'éloigna en toute hâte et la pauvre enfant alla faire ses couches hors de France, dans un âpre coin des terres du duc de Savoie. C'est là qu'elle donna le jour à un fils qui ne vécut que quelques mois. Cet obstacle écarté, Catherine reprit avec ardeur l'œuvre de corruption dont elle avait fait le pivot et la base de sa puissance. Ce qu'il fallait au roi pour servir ses desseins et la laisser suprême maîtresse du gouvernement, ce n'était point une obscure et chaste liaison avec une petite bourgeoise inoffensive jusqu'à présent, mais qui pouvait cesser de l'être à un moment donné. Elle redoutait l'empire que pouvait prendre sur le cœur de Charles l'habitude, ce petit fil invisible qui maîtrise à la longue le cœur des princes comme celui des vulgaires mortels. Elle redoutait surtout la vertu de Marie. La vertu pouvait bien, aux yeux de son royal fils, élevée au milieu de ces très belles et très honnêtes dames dont Brantôme fut l'historien, semblait la séduction la plus irrésistible parce qu'elle était l'attrait le plus rare. Et puis elle sentait qu'elle n'aurait aucune prise sur cette âme désintéressée, dénuée d'ambition peut-être, et qui n'engagerait jamais la lutte avec son génie supérieur, mais qui ne serait pas à elle. Or, ce que Catherine voulait avant tout, c'est qu'on lui appartînt corps et âme. Mettant à profit l'absence de Marie, elle essaya d'effacer entièrement son souvenir de l'esprit du roi. Dans ce but, elle lui donna de sa main plusieurs autres maîtresses, des nobles dames de la cour, façonnées par elle-même à ce métier de galanterie politique qu'elle avait importé en France d'au-delà les monts. 3 ans se passèrent dans une vie de plaisir, de fêtes, de dissipation et d'enivrement continuel. 3 ans pendant lesquels Charles IX sembla avoir oublié la pauvre exilée et son premier amour. À la fin, pourtant, il se lassa de ses joies mensongères et factices. Il prit en dégoût ses courtisanes titrées qui recueillaient soigneusement chacune de ses paroles pour les verser dans l'oreille de sa mère. Il s'aperçut que ces belles créatures étaient de froids espions qui calculaient, sous-pesaient et notaient jusqu'aux mots sans suite qu'ils bégayaient dans l'ivresse des sens. Alors, il se souvint de la Vierge sur le sein de laquelle il avait pleuré et souri sans contrainte, et l'avenir lui apparut encore riche du passé. Marie Touchet, cependant, avait souffert sans se plaindre de son abandon. Elle était revenue en France pour vivre au moins près de Charles, s'il ne lui était plus permis de vivre pour lui. Un jour que le roi se trouvait dans cette disposition d'esprit que je viens de dire, et dans cette amère et profonde lassitude de son existence actuelle, il l'aperçut par hasard d'une fenêtre de son palais. Elle était vêtue simplement d'habits de couleur sombre, presque de deuil. Elle lui parut 1000 fois plus belle dans sa douleur et sa résignation. L'amour qui s'était échappé de son âme furtivement et à son insu y rentra en maître. Revoir Marie, la revoir l'instant même, telle fut la pensée irrésistible qui s'empara du prince. Et comme il ressemblait assez peu à sa mère pour ne pas suivre son premier mouvement, cette journée bénie ne s'était pas écoulée qu'il était au pied de la charmante femme, implorant encore son pardon, quand il était déjà tout pardonné. Au sortir de cette longue et délicieuse extase de l'amour partagé, Charles se réveilla transformé. Ce n'était plus l'enfant timide, dérobant par la fuite l'objet de sa tendresse aux sinistres jalousies d'une mère, c'était un homme jaloux de faire respecter le choix de son cœur, si ce n'était pas encore un roi, se souvenant qu'en France, le sceptre ne doit jamais tomber en quenouille. « Je vous aime, Marie, » dit-il simplement, « et je vais à l'instant informer la reine, ma mère, de mes intentions à votre égard. N'ayez nulle inquiétude de ce côté, je saurai bien la faire consentir à nous laisser libres l'un et l'autre de nous aimer. Qu'elle règne, j'y consens. La couronne est lourde à porter pour un front de 20 ans. » « Sire, » répondit Marie touchée, « il adviendra ce qu'il plaira à Dieu. En lui j'ai confiance comme aussi en vous. Que votre royale volonté soit accomplie. » Le roi entoura tendrement Marie de ses bras et la baisa au front, puis il sortit précipitamment. Quelques instants après, il était de retour au Louvre et rejoignait sa mère dans une grande salle tendue de cuir brun gaufré d'or, la seule qui subsiste encore des appartements du roi Henri II. C'est dans cette salle que Catherine de Médicis avait l'habitude de se tenir après souper. C'est là qu'elle recevait les hommages des courtisans, toujours plongée dans un grand fauteuil au coin de l'immense cheminée, encadrant dans un bonnet de velours noir façonné en pointe, son visage froid et impérieux, comme le masque d'une supérieure de couvent, et vêtue de noir, portant le deuil de son époux qu'elle ne quitta jamais. Précisément, au moment où le roi son fils l'aborda, Catherine venait de congédier ses conseillers ordinaires, Nostradamus et les Ruggieri. On sait la foi sans bornes que la fille des Médicis avait aux sciences occultes. Ses astrologues ordinaires lui avaient tiré son horoscope au début de sa vie et elle avait vu se réaliser, avec une singulière précision, les prédictions qu'il lui avait faites. Sans doute il avait été question de Charles et de ses amours dans le conciliabule qui venait d'être tenu, car au premier mot du roi sur le retour de Marie touchée et sur sa passion pour elle, Catherine l'interrompit en lui disant « Je sais tout ». « Alors vous savez aussi, ma mère, » reprit Charles avec impétuosité, « que Marie est une jeune fille sans ambition, pleine de respect et d'amour pour vous, qui n'a jamais entrevu seulement la pensée de paraître à la cour et qui préfère à tout un bonheur modeste et ignoré de tous. « Je connais ses sentiments, » répondit lentement la reine, « et je les approuve. « Oh, merci pour cette bonne parole, ma mère, » s'écria le roi. « Ainsi, vous permettez qu'elle vive près de moi? Vous ne prendrez pas d'ombrage de mon amour pour elle ?»« À une condition, mon fils, » dit Catherine, en se levant majestueuse et solennelle. « C'est que vous ne sacrifierez pas à un caprice de votre cœur les intérêts de votre couronne. Écoutez-moi. » « Je vous écoute, ma mère, » répondit docilement Charles IX. « Sire, » continua la reine, « il faut que vous vous mariez. »« Qu'à cela ne tienne, » dit le roi, dont le front soucieux s'était subitement éclairci. « Je vous ai trouvé une femme. Je ne vous dirai pas que c'est une douce et belle princesse, de tout point digne de votre amour. Votre pensée étant ailleurs, vous ne me comprendriez point. Je vous dirai seulement que c'est la petite fille de Charles Quint et que, dans 3 mois, elle sera dans votre lit. » « Une princesse d'Autriche, ma mère ?»« Oui, mon fils, Donia Isabelle. Et si je vous la fais épouser, c'est pour mieux préparer la ruine de sa maison, l'éternel ennemi de la France et de l'Italie. L'Italie, je veux qu'elle soit réunie tout entière sous le sceptre des Médicis, dont les intérêts se confondent avec ceux de la maison de France, à qui doit naturellement revenir l'héritage de la couronne d'Espagne. » « Un jour viendra, mon fils, » ajouta-t-elle d'un air inspiré, « où il n'y aura plus d'Alpes ni de Pyrénées, où ces 3 peuples, France, Italie, Espagne, unis par la religion et le sang, n'en feront qu'un. Voilà pourquoi je défends le catholicisme. Monsieur, la France doit rester catholique ou disparaître de la carte d'Europe. » Mais Charles IX n'écoutait point cette politique transcendante. Sa pensée n'était plus au Louvre. À dater de ce moment, aucun nuage ne troubla plus les amours du roi et de sa douce maîtresse. Bien qu'enveloppé toujours de ce transparent mystère qui dissimule mal les passions des rois, nous les voyons inspirer la verve des poètes ordinaires de la cour. Tour à tour, Dora, Ronsard, Desportes et bien d'autres ont chanté la beauté de Marie Touchet sous des noms allégoriques qui ne trompaient personne. Déjà, Desportes, dans des strophes touchantes, avait célébré le rapprochement des deux amants. Dans ces beaux vers, où la parole est laissée au roi, nous trouvons le portrait psychologique de ce prince qui nous aide singulièrement à restituer cette physionomie défigurée par l'ignorance et la haine des historiens. La royauté me nuit et me rend misérable. Jamais à la grandeur amour n'est favorable. Si je n'étais point roi, je serais plus content. Je la verrais sans cesse, et par ma contenance, mes pleurs et mes soupirs, elle aurait connaissance que je sens bien ma faute et qu'en suis repentant. Digne objet de mes vœux qui m'avaient pu contraindre par tant d'heureux efforts, votre honneur serait moindre si j'avais obéi dès le commencement. Deux fois vous m'avez mise en l'amoureux cordage, deux fois je suis à vous. C'est l'être davantage que si vous m'aviez prise une fois seulement. Il est bien malaisé qu'une amour véhémente soit toujours en bonasse et jamais en tourmente. Vénus, mère d'amour et fille de la mer. Comme on voit la marine est calme et courroucée, l'amante est agitée de diverses pensées. Qui dure en un état ne se peut dire aimer. Charles IX, d'ailleurs, aussi poète que les plus illustres de la Pléiade, n'avait pas besoin d'interprète pour rendre ses sentiments, et voici les vers qu'il composa lui-même sur sa maîtresse. Toucher, aimer, c'est ma devise, de celle-là que plus ne prise, bien qu'un regard d'elle à mon cœur darde plus de traits et de flammes que de tous l'archéro vainqueur, n'en ferait on qu'à pointer dans mon âme. Le roi avait logé Marie Touchet au coin de la rue de l'Autruche et de la rue Saint-Honoré, à deux pas du Louvre, dans une jolie petite maison construite en 1520 pour la fameuse duchesse d'Alençon, sur une partie du jardin du vieil hôtel de ce nom. C'était un pavillon élevé d'un étage seulement au-dessus du rez-de-chaussée, bâti en briques. Les fenêtres étaient encadrées de pierres blanches, fouillées en bosselage vermiculé suivant le goût du temps. Une cour étroite la séparait de la rue et un petit jardin l'isolait sur le derrière de l'hôtel d'Alençon. L'intérieur, pour la simplicité et le bon goût, répondait au dehors de cette modeste habitation. C'est dans ce nid mystérieux que Charles IX abritait ses amours quand il ne cachait pas sa maîtresse dans les sombres appartements du château de Madrid. Marie Touchet ne tarda pas à devenir mère une seconde fois. Elle accoucha d'un fils au château de Fayet, en Dauphiné, le 28 avril 1572. Catherine de Médicis, qui décidément lui avait accordé ses bonnes grâces, fit reconnaître cet enfant par le Parlement et permit que le petit Charles de Valois portât le titre de comte d'Auvergne. Déjà, elle avait fait don à la maîtresse de son fils de la seigneurie de Belleville, près Vincennes, où Marie Touchet se rendait parfois quand, après la chasse, le roi passait la nuit au château. Moins favorisée du ciel que sa rivale, la reine Élisabeth ne donna qu'une fille au roi de France. Décidément, l'étoile de la petite fille de Charles Quint pâlissait devant celle de Marie. La maîtresse royale, dans le naïf et égoïste orgueil de l'amour, ne faisait même pas à la pauvre reine l'honneur d'être jalouse d'elle. C'est du moins ce que prétend cette mauvaise langue de Brantôme. Cette belle dame, lorsqu'on trétoie le mariage du roi et de la roine, un jour, ayant vu le portrait de la roine et bien contemplé, ne disent autre chose sinon que « L'Allemagne ne me fait point de peur », inférant par là qu'elle présumait autant de soi et de sa beauté que le roi ne s'en saurait passer. Élisabeth, qui, selon le même Brantôme, fut une des plus douces roines qui ait jamais été et qui ne fit aucun mal ni déplaisir à personne, négligée de son époux, offrait en silence ses larmes à Dieu et passait ses nuits solitaires à lire ses heures. Ce n'était point cette victime résignée qui pouvait faire échec à la passion du roi, surexcité par les joies de la paternité. Le fils de Marie Touchet, que Brantôme déclare être un très beau et très agréable prince, est la vraie ressemblance du père en toute valeur, générosité et vertu, ressemblait en effet beaucoup à Charles IX. Tout enfant, il en avait déjà les traits, les gestes, le sourire. Le roi passait de longues heures dans le petit logis de la rue de l'Autruche à le faire jouer et sauter sur ses genoux. Délicieuse soirée qui ne devait pas avoir de lendemain. Une nuit, Charles arriva chez sa maîtresse, pâle, l'œil hagard, convulsif, tremblant, le front baigné d'une sueur froide. Pour la première fois, il repoussa les caresses de la jeune femme et ne se pencha point sur le berceau de son fils. C'était au lendemain de la Saint-Barthélemy. Des bandes d'assassins couraient encore les rues et, pour franchir la courte distance qui séparait le Louvre de la rue de l'Autruche, Charles IX avait trébuché sur 20 cadavres. À dater de cette nuit terrible où l'on avait violenté sa volonté royale, l'infortuné prince n'eut plus un instant de repos. En vain, pour chasser le fantôme sanglant, se jeta-t-il dans tous les excès d'une débauche furieuse et se livra-t-il avec emportement aux exercices les plus violents. Il ne fit plus, jusqu'au jour de sa mort, que de rares apparitions chez Marie Touchet, et chaque fois, il lui disait d'un air sombre « Mamie, je suis condamné, je périrai bientôt. » Et il serrait le petit Charles de Valois contre son cœur et s'écriait, en versant des torrents de larmes, « Enfant, que tu es heureux, tu ne seras jamais roi. » Après la mort de Charles IX, Marie Touchet, qui ne s'était en rien mêlée des affaires et n'avait pris aucune part aux intrigues, recueillit le fruit de sa sagesse. La reine-mère laissa par testament au petit Charles de Valois ses propres, les comtés d'Auvergne et de Lauragais. Plus tard, la reine Marguerite, la première femme d'Henri IV, contesta la donation et la fit casser par le Parlement. Mais le roi Louis XIII indemnisa par la suite le comte d'Auvergne en lui donnant le duché d'Angoulême. Marie Touchet épousa Charles de Balzac, marquis d'Entragues, gouverneur d'Orléans, qu'il avait connu et aimé toute jeune avant sa liaison avec le roi. Elle lui donna deux filles. L'aînée fut la célèbre marquise de Verneuil, maîtresse de Henri IV, qui voulut détrôner ce prince lors de la conspiration du maréchal de Biron, pour donner la couronne à son frère Uterin, le comte d'Auvergne. Gravement compromis dans cette conspiration et même jeté en prison, celui-ci ne fut rendu à la liberté que par respect pour le sang des Valois, assure l'auteur de la Confession de Sancy. C'est sans doute le même sentiment qui fit fermer les yeux à Louis XIV quand le comte d'Auvergne, devenu duc d'Angoulême, avec droit de battre monnaie sur ses terres, s'amusa à altérer les titres et à se faire faux monnayeur. Marie Touchet mourut presque nonagénaire et fut inhumée dans l'église des Minimes de la place royale. Sur une lame de cuivre enfermée dans son tombeau, on avait gravé cette épitaphe. Sigy, le corps de haute et puissante dame, Madame Marie Touchet de Belleville, au jour de son décès, veuve de feu haut et puissant seigneur, messire François de Balzac, seigneur d'Entragues, chevalier des ordres du roi et gouverneur d'Orléans, laquelle décéda le 28 mars 1638, âgée de 89 ans. La seconde fille de Marie Touchet, Marie de Balzac, eut le malheur d'aimer un fat, Bassompierre, qui la paya de ses bontés en outrageant et en calomniant sa mère. Voici en quels termes le galant maréchal raconte dans ses mémoires le touchant épisode des amours de Charles IX et de Marie Touchet. Le lieutenant général d'Orléans, nommé Touchet, fut accusé d'avoir aidé au prince de Condé de surprendre Orléans au premier trouble, car il était soupçonné d'être de la religion. Ce fut pourquoi on lui suscita une accusation pour le perdre. Mais Entragues, gouverneur d'Orléans, qu'il aimait, offrit une jeune fille qu'il avait, nommée Marie, d'excellente beauté, au roi Charles, moyennant quoi il eut la vie sauve. Et la fille fut produite au roi, qui la dévergina et elle fut à lui. Puis, ensuite, étant devenue grosse, l'extrême respect que ce roi portait à sa mère fit qu'il l'envoya sur la frontière de Savoie, hors de France, où elle accoucha d'un fils qui mourut. Cependant, le roi devint amoureux de Madame de Clermont d'Entragues et de Madame de Narmoutier, et ne se soucia plus de Marie Touchet, jusqu'à ce qu'au bout de 3 ans, l'ayant vue en une fenêtre, comme il allait au palais, il lui prit envie de la revoir et l'engrossa de nouveau d'un fils dont elle accoucha encore en Savoie. Et le roi Charles étant à la mort, le recommanda à la reine sa mère, qui en eut soin et le fit étudier. Puis le roi Henri III le prit en amitié et lui fait grand s'il eût vécu, le recommandant fort au roi Henri IV, son successeur. C'est le duc d'Angoulême. Marie Touchet, depuis, se maria avec le même d'Entragues qu'il avait produit au roi Charles. Monsieur le maréchal de Bassompierre, en écrivant ces lignes, ne songeait sans doute pas à la postérité qui flétrit les lâchetés de quelque part qu'elles viennent.